veulent faire les rabais, les berlioz, les maupassants, les renoirs et les rembrandts qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas, la culture est une fin.
Ce soir, je ne suis pas avec Sarah, je suis avec Maë. Bonsoir Maë.
Bonsoir Léa.
Alors tu nous as annoncé une excellente nouvelle. Récemment, Errance a été invitée au festival Écoute à Grenoble. Alors on s'est dit que c'était l'occasion que tu nous parles un peu de ce festival. L'atmosphère, les enjeux, le type de personnes. C'est des questions vagues, mais il faut bien commencer par là.
Oui, c'est un peu vague comme question. Alors,
c'est la question de Sarah.
Moi, je ne suis pas spécialiste du festival Écoute, hein, mais j'y suis allée le week-end dernier. Et du coup, bah, c'est un nouveau festival qui s'est créé là, cette année et qui était le week-end dernier, justement, à Grenoble, le quartier Saint-Bruno, si vous connaissez un peu la ville, et qui consiste en fait à mettre des installations sonores en fait, dans le quartier. Il y avait plusieurs choses, il y avait une exposition sonore que j'ai pu voir qui était vraiment pas mal, où ils avaient fait participer en fait, les gens du quartier en les photographiant et en leur posant cette question, à quel moment dans votre vie avez-vous eu l'impression de dépasser des limites? Et en fait, on se baladait avec bah, soit un smartphone, soit un MP3 qui nous passait dans un parc, et on voyait les photos et on écoutait une ou deux minutes de témoignages comme ça en les regardant. Donc c'était vraiment chouette. J'ai aussi assisté à une table ronde qui était organisée avec Radio Campus, avec sur les radios associatives en danger, à laquelle j'ai reconnu Olivier Minot d'ailleurs, et aussi la Radio Dragon ou ex-Radio Montaiguille, qui est une radio tout près de chez moi. Bref, il y avait aussi des séances d'écoute, c'est là où ils ont diffusé les errances. Je suis allée à trois, il y en avait une dans une caravane, une dans une salle et une autre dans un restaurant avec dégustation de vin associée au son. Ça c'était bien, ça m'a plu. Et bon, il y a aussi plein d'autres choses que j'ai pas eu le temps de faire, donc je pourrais pas trop vous en parler. Il y avait des balades sonores, un documentaire sonore concert, ça j'aurais bien aimé voir. Et un atelier bruitage aussi. Et enfin, il y avait aussi des postes radio, ça j'ai beaucoup aimé, qui étaient accrochés aux arbres en fait, dans le parc. Et qui diffusaient des sons, et donc ça se rajoutait aux sons du quartier. Et si vous voulez, j'ai un son qu'on peut écouter, où on entend en fait les voix des gens qui discutent, etc. dans le quartier. Et en plus des sons qui... Enfin, normalement, on comprend que c'est des sons qui sont rajoutés.
Avec plaisir, c'est parti. Est-ce que tu n'as pas précisé, Maë, c'est que tu avais fait un numéro spécial pour cette occasion?
Oui. Oui, bah, j'en ai profité. Bah, à chaque fois que je vais dans une autre ville, généralement, je prends mon zoom et je vais enregistrer des sons pour faire un errance. Donc, voilà.
Donc, on peut écouter cette émission
désormais sur Transistor.
Sur le site de Transistor.
Comme d'habitude.
Super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Maë, sur cette excursion?
Non, j'ai pas grand chose à dire. Bah,
super. Bah, merci Maë, c'était un vrai plaisir en tout cas de t'interviewer en direct. En tout cas, chers auditeurs, le Journal de la Culture vous invite à écouter Errance, disponible en podcast, sur le site de Transistor, et dont vous pouvez suivre la page Facebook Cloué au lit ou Trimardeur accompli. Errance vous emmènera dans des contrées que vous connaissez peut-être, mais sans doute pas assez.
Peut-être la meilleure émission de Transistor.
J'allais rajouter une couche.
Amplifiée, c'est...
Peut-être. J'allais rajouter une petite couche de pub écrite par Sarah.
J'apprécie.
Errance, avec son regard particulier, à la fois mélancolique et festif, curieux et contemplateur, c'est votre émission de voyage poétique favorite sur Transistor et dans le cosmos tout entier.
Marseille se met en marche en arrière vers 68. Alors, au fait, Léa, tu viens à la manif du 1er mai. Regarde comme il fait beau. Cela donne envie de se faire cheminot, E-A-U, soit trimardeur, erratique, personnage ou vagabond en langage. En langage moins saugrenu, bref, cela donne envie de se faire cheminot.
On voit que c'est Sarah qui a écrit les réponses. Hein.
Sans mauvais jeu de mots. Bah, si, mauvais jeu de mots, Sarah.
Bien, merci Sarah pour ce script.
les pancartes colorées, les fleurs et les camaïeux de visages expressifs, n'est-ce pas?
Camoulox.
Laissez-moi me concentrer. N'est-ce pas un signe indéniable du printemps? D'aucuns disent, pour ne pas citer Schultz, que notre frisson nasal, ou éternuement en langage moins biscornu, annonce moins le printemps que les fameuses hirondelles. Bref, le printemps. Sarah, à travers moi, ma voix, pourrait encore gloser des heures dessus, vous savez, palabrer infiniment, c'est sa spécialité, et là, je ne vois ni la fin de ma phrase, ni la fin, le but, en langage moins farfelu, de ces digressions. Ah si, voilà. Mais, c'est le printemps, et c'est chargé en pollen autant qu'en colère cette année. Mai 2018, ça rappelle à nombre d'entre nous les échos de mai 68. Et justement, je connais une ville, pas très loin d'ici, où entre deux bouchées de bouillabaisse et de pastis, vous pouvez vous replonger dans le passé.
Bien vu Maë. Et chers auditeurs, saviez-vous que Marseille organisait une exposition qui plairait aux plus contestataires d'entre nous? Mais attention, ce n'est pas mai 68 que vous avez tous vu dans Innocent the Dream ou dans toute l'imagerie parisienne dont nous avons également l'habitude. Alors de quel mai 68 s'agit-il? Quelle est l'originalité de la démarche marseillaise? Afin de garder un peu de suspense, je vous livre d'abord les informations pratiques. L'événement a lieu entre le 3 mai et le 2 septembre au Musée d'Histoire de Marseille. Il se présente en deux volets.
Nous crevons de suspense là.
Bon bah j'y viens, j'ouvre donc mes volets et que vois-je? Le mouvement de mai-juin 68 sous ma fenêtre. Oui, des étudiants en colère, des éboueurs abandonnant leurs fonctions et des ramassis des troncs. Vous avez des têtes dubitatives et pourtant c'est bien en 68 et pas dans les étrons que Marseille nous donne rendez-vous. On rattache souvent cette période à la capitale, toujours la capitale, mais qu'en fut-il en province alors? Au bord de la mer, croyez-vous que les remous des jours agités à Paris n'ont trouvé qu'une faible écume? Jolie métaphore, Sarah. Pas d'émeute, certes, mais les Marseillais savent montrer de quel pastis ils se chauffent. Allons bon. Le musée d'histoire vous propose donc un nouveau regard sur les vagues 68ards dans le premier volet de son expo, les répercussions des émeutes parisiennes dans le bassin marseillais. Et oui, donc le foulard rouge de Renaud, on ne le verra pas ici. Le second volet, lui, se consacre à l'art en général en 68 à travers une sélection d'œuvres contemporaines. Pour citer le descriptif du musée, rappelons que mai 68 s'inscrit dans un moment particulier où des formes de contestation se sont développées partout dans le monde.
Alors enfilez vos espadrilles et vos lunettes de soleil, prenez le train, même si c'est parfois compliqué en ce moment, et filez au bord de la mer. Si vous, les cheminots, ne vont pas bon train, n'allez pas bon train, je sais pas, vous pouvez toujours muscler un peu vos mollets et cheminer à pied. C'est à toi, les... Pardon. C'est à toi, Léa, de nous parler de Lyon. Et mais tu restes en secteur 7e cette semaine?
Bah oui, mais cette semaine, j'ai eu la flemme. Je n'ai pas eu envie de vous parler des nuits sonores, de l'exposition Hugo Pratt au musée des Confluences, ou bien de toutes ces petites galeries et ces médailles en Lyon. Alors, pendant que le musée d'art contemporain de Lyon se cherche un nouveau président, que la halle Tony Garnier se cherche aussi un nouveau président, que le musée des tissus demande de l'aide via une plateforme participative pour pouvoir continuer à exister, parce que Lyon est la capitale mondiale de la soie, oui madame, c'est Stéphane Bern qui l'a dit, pendant que toute cette vie culturelle lyonnaise tressaute comme un espèce de vieux varan qui expirerait son dernier souffle, ben je me suis dit, finalement, qu'on n'était pas si mal ici, dans notre vieux Gerland, où des jeunes montent des projets, dans des galeries taille placard ou dans des théâtres écoles.
Et donc tu te regardais le nombril?
Je vais même y coincer mon œil dans mon nombril parce que figurez-vous que les semaines prochaines et même à partir de demain ou même de ce soir, on va voir des choses très chouettes à l'école, autant au niveau des expos que du théâtre ou de la danse, donc autant ne pas se priver d'en parler.
Alors que se passe-t-il à la galerie Artemisia?
Une exposition qu'on vient de vernir. Ce sont des œuvres du fonds Auvergne-Rhône-Alpes que les jeunes apprentis commissaires de l'ENS, ont réunis ici.
Comment ont-elles été choisies, les œuvres?
Bien, elles sont se donner un axe de réflexion et puis les œuvres lancent différentes pistes.
Et quel est cet axe?
Alors l'exposition s'appelle Percevez-vous, parce que c'est bien tout notre corps qui est percevant et que justement les œuvres choisies n'investissent pas seulement l'œil, mais bien le corps du visiteur. Et puis on remarquera que le titre de l'exposition est aussi à l'envers, c'est pas un hasard. Les œuvres demandent de ne pas seulement percevoir immédiatement, mais d'aller fouiller, gratter, prendre le temps de la traque d'un détail ou d'une forme qui bouge. Parce que chez Anne-Véronica Janssen, comme chez Denis Roche ou Sylvia Bossu, on se trouve devant des objets qu'on ne comprend pas vraiment, au premier regard en tout cas. Cette incertitude initiale, elle ouvre une brèche, elle instille doucement la présence de l'autre, celle de l'artiste. je crois que c'est ça leur axe de réflexion, l'altérité. Et dans la mesure où ces œuvres peuvent être des espèces de portails vers des altérités, l'expérience suggère une relation étrange ou conflictuelle, voire peut-être douloureuse en fonction du visiteur, puisqu'il est censé être aussi un acteur.
Pourquoi conflictuelle ?
Parce qu'à travers cette brèche ouverte vers la question de l'altérité dont je vous parlais, je crois que les commissaires veulent aussi guider le visiteur sur des terrains plus politiques. On sent la question des frontières, qui est un peu comme une présence fantôme avec les œuvres de Latifa Aykaç ou d'Elena Panayotova. Mais il faut aller voir de ses propres yeux ou de son propre corps.
En galerie Artemisia, donc, jusqu'à cet été. Et que se passe-t-il en ce moment au Théâtre Cantor ?
En ce moment, on joue. On joue une pièce ce soir et demain, alors évidemment, on n'a pas invité les comédiens, mais l'une d'entre eux, Constance, a pu m'en parler un peu.
Alors, quelle est cette pièce ?
Il s'agit d'une adaptation de La Mouette de Tchekhov.
Encore ?
Eh ben oui. En effet, c'est une pièce qui a été montée à peu près 1000 fois, et donc tenter de se l'approprier, ça a déjà été un premier élément un peu compliqué pour La Vieille Branche. Donc La Vieille Branche, c'est la troupe de l'ENS qui l'a montée. Et puis, il y avait un autre problème, c'est que c'est une pièce qui a la réputation d'être quand même très ennuyeuse.
Pourquoi ennuyeuse ?
Parce qu'elle est jalonnée d'un métadiscours sur l'art, sur le théâtre, sur les relations amoureuses, et c'est des éléments qui s'incarnent dans des très longs monologues. Et ça, au théâtre, c'est pas facile à gérer. Et puis à ça, il faut ajouter le fait qu'à proprement parler, dans cette pièce, il ne se passe rien. On a des personnages et des relations qui, selon la très belle formule de Constance, tournent en rond dans la campagne russe.
J'imagine que le projet de La Vieille Branche n'est quand même pas de faire roupiller la cantor.
Pas vraiment. La troupe a quand même choisi plusieurs partis pris assez marqués. Le premier, c'est d'essayer de faire ressortir certaines potentialités comiques de la pièce. Le second, c'est d'accompagner la pièce de musique issue du folklore russe grâce à deux musiciennes qui seront présentes sur la scène. Et puis il y a un troisième élément assez fort qui donne, je trouve, une idée de la tonalité que prendra cette adaptation, c'est qu'ils ont choisi d'insérer au cours de la pièce d'autres textes et d'autres œuvres de Tchekhov qui soulignent en fait beaucoup plus l'idée que cette pièce, La Mouette, peut être aussi une satire sociale.
On commence à comprendre. Bon, on a hâte de voir cette pièce en tout cas.
Oui, elle est encore à voir demain en Cantor.